France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Élodie Forêt.
Les clés de la ville remises aux habitants. Dans le sud-ouest, bon nombre de fêtes et férias commencent ainsi. Par cette tradition, ce symbole puissant d'un espace public qui, pendant quelques jours, se transforme. À Dax depuis aujourd'hui, à Bayonne en juillet, et dans bon nombre de communes des Landes ou du Pays Basque, ces codes sociaux qui soudain changent. Codes vestimentaires, bien sûr, tenues blanches, foulards rouges ou bleus, selon les villes. Et puis, il y a les hymnes, ces chansons, ces musiques jouées par les bandas qui soudain arrêtent le temps. C'est aussi la foule et ces gens que l'on rencontre, ces barrières qui tombent. Des traditions, un héritage que l'on se transmet de génération en génération et qui attire bien au-delà de la commune des milliers de touristes. La fête, la joie et puis cette facette plus sombre également, la foule et ses dangers, alcoolisation excessive, violence, agression sexiste et sexuelle. Alors ce soir, on se pose la question, les fêtes peuvent-elles et doivent-elles évoluer vers des modèles inclusifs, plus sûrs, plus respectueux aussi de l'environnement ou du bien-être animal? Est-ce que tradition peut rimer avec adaptation? On interrogera aussi le coût de la fête, comment préserver l'indépendance du financement, pourquoi est-ce important? Et dans les villages, je pense au sud-ouest, mais aussi à d'autres régions, les fêtes votives, par exemple en Ardèche, le futur des fêtes est-il garanti quand les jeunes générations quittent les territoires ruraux? Alors racontez-nous vos fêtes, vos férias, vos traditions. Comment faire pour allier sécurité et convivialité? Vos témoignages, vos questions à nos invités au 01 45 24 7000, téléphone ou message WhatsApp. Venez nombreux, on est ensemble jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer cette émission, on est avec Laurent en ligne. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes un habitué des fêtes?
Ben oui, je suis un Bayonnais habitué des fêtes de Bayonne. Je fais partie d'une peña bayonnaise depuis très longtemps et je fais des fêtes de Bayonne depuis l'âge de 15 ans et puis les autres fêtes du sud-ouest, notamment Pampelune aussi, depuis quelques années.
Oui.
Et, voilà. Et oui.
Oui, dites-moi.
Et oui, par rapport à ça, quand j'ai vu le sujet de ce soir, effectivement, on est toujours intéressé par ces sujets parce que nous, en tant que peña bayonnaise, on est partie prenante des fêtes de Bayonne et on est toujours dans tous ces sujets qui sont d'ordre déjà festif par rapport à ce que sont les fêtes et qu'est-ce que ça représente en termes de moments partagés durant 5 jours ou plus à Pampelune ou à Dax ou à Nomarsan ou d'autres fêtes du Sud-Ouest ou en Espagne. Et ces moments que l'on doit préserver, ces fêtes populaires de rue, voilà, qui sont où l'essentiel où l'importance, la chose la plus importante, c'est la rue. Hein, c'est là où tout se passe, tous les échanges se font. Et qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour préserver ce biotope festif que sont nos fêtes et qui vont à l'encontre un peu de ce qu'on connaît aujourd'hui dans ce monde de plus en plus aseptisé, de plus en plus normé, où nos fêtes sont un grand moment de liberté en premier, un grand moment de joie et de partage et de convivialité avec des faces sombres. Et dont les différentes collectivités se saisissent et en lien avec toutes les associations qui luttent contre les agressions, quelles que soient les agressions sexistes, physiques ou autres. Hein. On a malheureusement eu un sujet il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans à Bayonne, très, très malheureux. Et donc aujourd'hui, oui, ces fêtes, il faut les préserver, il faut encore mieux les encadrer, il faut même, la peña dans laquelle je suis, on a tendance à dire qu'il faut les professionnaliser, il faut mettre des moyens. C'est des fêtes qui coûtent cher aux collectivités territoriales, mais qu'il faut continuer à encore mieux travailler sur le fond, travailler en lien avec les collectivités territoriales qui portent ces fêtes-là, et avec les acteurs principaux des fêtes, que sont le tissu associatif, les cafetiers professionnels, et tous les gens qui prennent part à ces fêtes. Mmh. Et vous avez ce soir Philippe Steiner qui est comme invité, avec qui on a qui était un intervenant qui connaît très bien Bayonne, puisque je crois qu'il habite à Bayonne et on s'est croisé plusieurs fois avec Philippe. Voilà, ce qu'on défend, nous, c'est surtout la préservation de ces moments de liberté et ce biotope festif, et puis ce petit passe dans la rue, hein, parce qu'aujourd'hui, la rue, il faut la préserver, c'est là où tous les échanges se font, et c'est important aujourd'hui de réfléchir, et d'avoir, effectivement, il ne faut pas avoir peur de parler du lendemain des fêtes, que nos enfants, parce que ce sont des fêtes aujourd'hui qui sont redevenues intergénérationnelles, hein, de 7 à 77 ans, on a aujourd'hui des gens qui reviennent faire les fêtes, qui n'avaient pas eu l'habitude depuis il y a quelques années, aujourd'hui, tout le monde fait les fêtes, il y en a pour tout le monde, et ces fêtes intergénérationnelles, il faut les préserver, et puis il faut prévoir demain comment, en termes de durabilité, en termes de gestes éco-citoyens, comment on doit réfléchir aussi demain à organiser ça, à les rendre plus durables et plus acceptables par tout le monde.
Eh ben merci beaucoup Laurent, vous avez ouvert à peu près tous les chapitres de cette émission et toutes les discussions qu'on va avoir ce soir. Avec nous pour en discuter, vous l'avez dit, Philippe Stenner, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, spécialiste de la fête. Parmi vos objets d'études, il y a la fête de Bayonne et le carnaval de Rio. Vous êtes aussi l'auteur de « Faire la fête, sociologie de la joie ». En ligne avec nous aussi ce soir, Régis Gelaise, bonsoir.
Bonsoir Elodie Forêt, bonsoir la France Inter.
Vous êtes maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse dans les Landes. Les fêtes de Tyrosse, c'était en juillet. En ligne aussi, Marine Baraguet, vous êtes membre de l'association Balles et Pattes. Bonsoir.
Bonsoir. Oui, bonsoir à tous.
Alors c'est une association qui sensibilise les publics des fêtes et des férias aux comportements sexistes. Et puis Gilles Clavreul, vous êtes préfet des Landes. Bonsoir.
Bonsoir.
Je commence avec vous, très rapidement Gilles Clavreul, parce qu'on va pas, vous avez beaucoup de travail, on va pas vous embêter très longtemps, mais on pouvait pas faire l'impasse. Les fêtes, la feria de Dax qui commence aujourd'hui, qui dure jusqu'à dimanche, dans des températures, avec des températures caniculaires. Il n'est pas question, hein, vous l'avez dit, d'annuler la feria, mais comment on s'adapte pour faire la fête en toute sécurité ?
Bah, on a déjà prévu beaucoup d'adaptations en liaison avec le maire de Dax, avec qui j'ai échangé il y a encore quelques minutes. Des événements qui devaient se tenir en milieu de matinée se tiendront un peu plus tôt le matin. Les corridas, ça c'est le point peut-être le plus important et le plus symbolique, qui tiennent normalement à 18h, vont être poussés à 20h. Et puis certains événements de pleine journée, c'est-à-dire en plein soleil, là on nous annonce sur le site de Météo France des maxima de 39-40 pour vendredi, samedi, seront malheureusement annulés parce qu'il n'y a pas tellement de choix. Puis, par ailleurs, mais ça paraît évident, le feu d'artifice ne pourra pas avoir lieu.
Très bien. Et des recommandations de sécurité quand même auprès des festailles, c'est de boire beaucoup d'eau quand même, de ne pas boire que de l'alcool, j'imagine.
Alors oui, ça bien évidemment, mais j'allais dire que de toute façon, et même si les températures étaient un peu plus clémentes, on a un dispositif de secours d'abord et de prévention ensuite qui est très important, avec en comptant également les effectifs de sécurité, les CRS, les policiers, les gendarmes, etc. C'est à peu près 750 personnels, hein, tout corps de métier confondu, qui sont mobilisés. Et puis il y a également donc le travail très important des associations, je pense, pour ouvrir la discussion sur certains sujets que vous avez déjà évoqués dans la présentation. Il y a la physionomie de la fête, il y a les comportements. Alors je dois dire que on approche du 15 août et avant le grand événement qui est Dax, il y a beaucoup de fêtes qui ont déjà eu lieu. J'en profite pour saluer le maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Ça s'est bien passé chez lui, ça s'est bien passé dans beaucoup de communes. Il y a eu un grand événement qui était les fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan. Ouais. C'est à peu près 600 000 personnes. On a eu somme toute assez peu d'incidents et une physionomie qui est globalement bonne. Donc pourvu que ça dure. Mais ce que je tiens à souligner aussi, c'est que on a constaté et on a voulu mobiliser là-dessus un certain nombre de comportements sexistes notamment, qui sont là un peu préoccupants et sur lesquels, heureusement, on a des associations qui interviennent et puis on a une justice également qui interpelle, qui convoque et qui sanctionne. Voilà.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup Gilles Clavreul. Régis Gelaise, maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse, chez vous les fêtes c'était fin juillet. J'ai parlé pas mal d'adaptation dans mon introduction. Est-ce que le changement climatique, les épisodes de canicule qui risquent d'être de plus en plus nombreux, ça c'est quelque chose forcément auquel vous réfléchissez ?
Oui, alors on a connu cela nous à Saint-Vincent-de-Tyrosse il y a 2 ans. Cette année, on a échappé à une vague de chaleur, donc nous n'avons pas eu à nous en préoccuper. Mais ensuite, comme l'a dit Monsieur le Préfet, il y a certains événements ont été décalés en soirée pour attendre la fraîcheur et ensuite, des brumisateurs sont installés. On conseille aux festaires de s'hydrater pour que la fête se passe pour le mieux. Ensuite, je partagerai totalement les propos de Laurent, l'auditeur bayonnais. Mm-hmm. Nous sommes voisins, puisque c'est Vincent Tiros et Bayonne sont voisines. Oui. Et c'est vrai que les moments de fête, les fêtes de nos villes, de nos villages, sont une parenthèse enchantée et un vent de liberté court sur la ville. Et donc, à Saint-Cyros comme à Bayonne, comme à Mont-de-Marsan ou à Dax, c'est vraiment des fêtes intergénérationnelles, de jour comme de nuit. Et je pense que le vecteur intergénérationnel est le meilleur moyen pour transmettre justement ce sens de la fête et notre façon de faire la fête, puisque les fêtes sont faites pour nous et par nous. Donc nous sommes acteurs de la fête et je pense que c'est ce qui fait la différence peut-être sur des festivals ou des concerts ou de grands événements sportifs.
Philippe Stenner, Laurent, notre premier auditeur, il parlait de la rue. C'est important ça parce que ces fêtes, elles ont lieu dans l'espace public. C'est ce que je disais, ça transforme pendant quelques jours l'idée même de l'espace public.
Oui, tout à fait. C'est un point décisif des fêtes du Sud-Ouest, mais également aussi des fêtes du Pays Basque espagnol. À savoir le fait que, au moment de la fête, la ville s'offre en quelque sorte, elle s'ouvre, à part le lancer des clés symboliquement qui donne la ville, qui ouvre la ville au festin, mais par ce fait-là, la rue devient le réceptacle de la fête. Ce qui est un élément, me semble-t-il, important, qui a été souligné par Laurent, mais aussi par les autres intervenants déjà, c'est le fait qu'à partir du moment où la fête devient une fête de rue déambulatoire, la distinction entre les acteurs et les spectateurs disparaît. Le simple fait de se rendre dans la rue, vêtu de blanc avec du rouge, puisque c'est la couleur de Dax et de Bayonne, fait de vous un festin, quand bien même vous ne danseriez pas, vous ne chanteriez pas, etc. Et que donc, du coup, la rue devient un lieu d'expression de la joie populaire au moment des fêtes, mais aussi un lieu d'expression de ce qui fonde la tradition de ces fêtes au sens d'une tradition culturelle. C'est-à-dire qu'on va chanter ou courir derrière la banda ou on va aller se rendre sur les lieux des courses de vaches. Et que donc, de ce fait-là, il y a une dimension populaire, une dimension de joie, de liberté, non pas au sens où on ferait n'importe quoi, parce que ça, je pense que personne ne souhaite une telle chose, mais de liberté relationnelle. On peut s'interpeller, on peut ne serait-ce que simplement une chose tout à fait inouïe, on se frotte les uns contre les autres d'une certaine manière.
Il y a une promiscuité qui peut
une promiscuité
en rebuter
qui est à
certains.
La fois oui bien sûr, mais qui est à partir du moment où on est dans la rue et où on est plus de 4 ou 5 personnes par mètre carré, ce qui arrive très très souvent dans ces rues étroites, eh ben on passe les uns à côté des autres et le contact d'une certaine façon gentil, le contact qui reste aimable, le contact qui reste encapsulé dans des sourires, des jeux de mots, des rires, des paroles, eh bien, ça fait aussi partie de la fête, ces choses inhabituelles.
Nous sommes en ligne avec Patrice. Bonsoir, Patrice.
Oui, bonsoir. Oui, je voudrais partager un témoignage. Donc, j'ai presque 70 ans et ça fait un peu plus de 50 ans que je fais les fêtes de Dax depuis toujours. Et donc je suis donc landais, d'origine landaise, et simplement j'ai deux témoignages. Le premier, c'est que on nous inculque l'esprit de la fête très jeune dans nos villages les villages qui sont à côté de Dax dans les Landes, je pense que ça va être pareil au Pays Basque. Les jeunes qui ont 18 ans dans l'année sont entraînés par les plus anciens pour organiser la fête. Donc ce sont les jeunes qui ont 18 ans qui invitent les ganaderos pour faire les courses de vaches, qui animent, etc. Et donc quand on a 18 ans, on est bercé, on est noyé dans cet esprit de la fête qu'on garde ensuite toute notre vie avec le sens du respect, le sens de la fête, le sens de l'envie de rigoler en commun. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait d'esprit aussi intergénérationnel. Moi, simplement, j'ai mon père qui est décédé à 92 ans jusqu'à l'année qui précédait son décès. Je l'amenais chaque année aux fêtes de Dax. Il était heureux de s'habiller en rouge et blanc, d'aller boire une bière ou deux bières avec les anciens du village. Et voilà, donc c'était réellement un esprit intergénérationnel et de partage qui prévaut dans ces fêtes-là. Voilà.
J'aimerais aussi écouter Alice. Bonsoir Alice.
Oui, bonsoir.
Je vous écoute.
Moi, du coup, j'habite à Saint-Vincent de Tirot, donc c'est parfait. Vous avez mon maire en ligne. Donc, d'abord, je suis ravie d'habiter à Saint-Vincent de Tirot, mais c'est vrai que lors des fêtes, surtout depuis qu'on a changé de date par rapport aux fêtes de Bayonne l'an dernier, on a beaucoup de monde qui vient. Et moi, j'ai des enfants, enfin des ados, en fait, deux filles et un garçon. Mmh. Et c'est une période qui est assez stressante pour moi, pour eux, parce que bah, mes filles de 16 et 18 ans se font régulièrement importuner par des hommes alcoolisés. Bon, bah, plus la nuit avance, évidemment, plus c'est prégnant. Et mon fils risque à tout moment de se faire embarqué dans des bagarres, puisque c'est assez récurrent, il m'en a parlé. Voilà, il est lui-même un peu stressé à cette idée de devoir aider des copains qui seraient... voilà, il en a vu, il n'y a pas participé, mais bon, c'est une période de stress. Je ne peux pas trop sortir de chez moi, parce que c'est bloqué de partout, on a du monde partout. Et c'est vrai que pas loin, au Bois de Fontaine, on a le camping des Festaires, donc du coup, il y a toutes les tentes de toutes les personnes qui habitent autour ou qui sont touristes, qui viennent camper là pour quelques jours. Et qui, bon, c'est hyper bruyant, hein, et je dis à mes filles, surtout, vous ne passez pas là la nuit, parce que c'est pas hyper sécurisant. En fait, c'est assez intéressant d'entendre depuis le début de votre émission des hommes qui trouvent ces fêtes formidables, mais je trouve qu'il faudrait plus de témoignages de femmes qui, pour beaucoup, ne se sentent pas en sécurité dans l'espace public entouré d'hommes, pour beaucoup, qui restent très tard par rapport aux femmes et qui sont très alcoolisés. Je suis désolée, hein, y a des parties qui sont très intéressantes et très chouettes dans ces fêtes, mais il y a aussi toute une partie stress pour les femmes et pour les jeunes filles, je suis désolée. Et après, moi, pour moi, au niveau de la corrida et tout ça, il y a aussi une souffrance animale. Enfin, voilà, y a tout quelque chose qui me dérange, moi, dans cette logique de voilà.
Merci beaucoup Alice. Je vais passer la parole tout à l'heure à Marine Baraguet sur ce sujet parce que c'est très intéressant. Mais d'abord, puisque vous êtes le maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse et qu'Alice y habite, Régis Jelez, tous les habitants potentiellement n'ont pas forcément envie de faire ces fêtes. Qu'est-ce qu'on donne et offre comme sécurité à cette maman, par exemple, qui dit « moi, ça me stresse pour mes trois ados ».
Alors, bon, j'entends, et surtout le vendredi, le samedi, avec l'affluence, et c'est là où on a la moyenne d'âge la plus jeune, il peut y avoir quelques débordements. Donc, les forces de l'ordre sont présentes. On a aussi une société de sécurité qui assure la sécurité et qui intervient très rapidement. Il n'y a pas eu de gros débordements en termes de bagarres. Alors, malheureusement, des agressions ou du moins des invectives sexistes peuvent arriver. Et bon, là, on a mis en place depuis 2 ans un dispositif qui s'appelle le dispositif Angela. Peut-être que Marine Baraguet en parlera. Et donc c'est si une jeune fille se sent un peu en danger ou est importunée, elle peut à un comptoir ou dans une bodega demander Angela en serveur. Et c'est un code et le serveur comprend qu'elle se sent en danger et peut donc l'exfiltrer ou la prendre sous son aile avec d'autres et pour qu'elle puisse parler librement, expliquer ce qui se passe. Mmh. Voilà, c'est un des dispositifs. Et ensuite, on fait beaucoup de prévention sur les addictions, sur l'alcool et addiction à l'alcool et et aux drogues. Donc sur le point repos et sur des points sensibles de la ville.
Marine Baraguet, c'est vrai que on entendait beaucoup d'hommes depuis l'émission. Après, il y a aussi beaucoup de femmes qui participent à ces fêtes et férias. Mais c'est vrai que si on dit que la rue est à nous, est-ce que c'est aussi vrai pour les hommes que les femmes? Est-ce que les femmes, elles peuvent se relâcher complètement dans ces fêtes?
Oui, bien sûr, et c'est exactement l'objectif en fait de notre association. Alors ouais, effectivement, vous avez eu beaucoup d'interventions masculines, mais que je rejoins tout à fait. Je crois qu'en fait, il faut essayer de généraliser ce côté positif et pas les côtés négatifs qui finalement peuvent être minoritaires, et on aurait tendance à se focaliser forcément, comme ce sont des faits importants, sur des choses qui n'arrivent pas si fréquemment que ça, mais qui arrivent effectivement, comme l'a dit Monsieur le maire il y a quelques instants. J'ajouterais que quand même, l'objectif de la fête, c'est effectivement la convivialité et le partage. En plus, on retrouve des anciens, des amis d'enfance, etc. On fait aussi la rencontre de touristes. Et nous, justement, c'est là-dessus qu'on veut œuvrer. C'est-à-dire que Alice a prononcé plusieurs fois le mot « stress ». Et ça, c'est justement ce qu'on veut éviter. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est que nos fêtes restent belles, qu'elles restent saines, et que oui, les hommes et les femmes puissent se comporter exactement de la même manière et que la rue leur appartienne. Ça peut être à plusieurs niveaux, notamment Nous, on constate quand même une évolution sur la tenue des jeunes femmes qui peuvent enfin venir comme elles le souhaitent à la fête, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, parce que moi, je commence à avoir un petit peu de bouteille. Et on se surcachait parce que... On avait peur des remarques et maintenant, même si ça arrive encore, les jeunes filles, ben là justement en temps de canicule, elles n'ont pas besoin de porter un t-shirt ample et un pantalon long. Elles peuvent venir en short et en débardeur et elles en ont tout à fait le droit. Et on constate que maintenant, c'est plus un fait marginal et que du coup, ben on y prête plus attention et elles sont beaucoup moins importunées qu'à mon époque. Donc nous, c'est là-dessus qu'on œuvre et nous, on travaille vraiment au cœur de la fête. Donc c'est essentiellement une opération de communication, on fait de la sensibilisation, on est vraiment le tout premier maillon de la chaîne au niveau de la prévention sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'on se permet un temps un petit peu décalé, qui fonctionne bien parce qu'on ne fait pas la morale, on est tous acteurs de la fête, chacun doit véhiculer le message. Et en général, ça permet vraiment d'enclencher le débat. Et puis voilà, même les jeunes femmes, elles disent « Ah ben tiens, je vais mettre un autocollant anti-relou. » Comme ça, au moins déjà, ça envoie un signal que je ne suis pas là pour me faire importuner. Mais les échanges sont très importants. Donc je pense qu'il faut aussi arrêter de... Nous, ce qu'on voudrait, en fait, c'est justement enlever ce stress. C'est-à-dire que dans les années passées, je pense qu'il y a des jeunes hommes qui étaient tout à fait bien et qui avaient le droit d'aller parler à des jeunes femmes. Mais les jeunes femmes étaient beaucoup sur la défensive, justement, à cause de ce que nous, on appelle les relous, qui sont peut-être pas si nombreux que ça, mais qui, finalement, importunent suffisamment pour que des hommes très bien puissent aussi échanger avec des jeunes femmes et faire des rencontres. Et quand on a lancé l'association, en fait, on a été très surpris de ça. La seule chose qu'on n'avait pas anticipée dans les réactions, c'est le nombre d'hommes qui se sont saisis de l'opération. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes, en fait, se tapissaient d'autocollants et nous disaient « Ah, c'est super ce que vous faites, parce qu'on ne peut plus échanger, on ne peut pas adresser la parole à une jeune fille sans qu'on soit pris pour quelqu'un qui a une mauvaise intention. » Et donc, ils étaient contents qu'on œuvre là-dessus pour vraiment revenir à des relations saines et normales. Comme l'ont dit les prédécesseurs, c'est vrai que pendant la fête, les barrières tombent, mais ça peut être dans un sens très positif, justement. Et on peut se permettre d'échanger. Effectivement, comme il a été dit avant, on a des contacts. Il y a de la promiscuité, mais très souvent, c'est bienveillant. Et j'ai beaucoup aimé la phrase qui dit que ça se fait par des sourires. Et c'est vrai que je me suis retrouvée des fois un peu oppressée par la foule ou avec des jeunes filles qui ne se sentaient pas bien. Et en général, les chaînes humaines se font pour aider, pour les gros bras, justement, des fois, qui poussent un peu la foule pour que certains plus petits gabarits puissent respirer. Enfin, en général, il y a quand même beaucoup de solidarité aussi. Voilà.
Philippe Stenner, il y a eu une évolution ces dernières années sur une demande peut-être de sécurité. Vous avez fait des enquêtes auprès des Bayonnais, notamment.
Oui, bien sûr, c'est un élément important. D'abord, d'un point de vue institutionnel, c'est une obligation qui vient de par la loi. Le maire doit assurer la sécurité dans l'espace festif. Il est aidé en cela par les forces républicaines. Et surtout, bien sûr, après le sinistre attentat de Nice en 2016. Donc là, il y a une montée de demandes de sécurité, c'est très important. Donc ça, c'est un fait. Et puis, il y a aussi, je pense, un ressenti de sécurité dans l'auditrice là, qui a évoqué le stress qu'elle a vis-à-vis de ses ados, il y a une sensibilité plus forte, plus importante. J'en prendrai, si vous voulez, un exemple. Dans les années 60, 70, 80, le journal local de Le Sud-Ouest, pour ne pas le nommer, à Bayonne, titré sur le nombre de hougnes, c'est-à-dire de gens qui étaient bousculés par les vaches pendant les courses de vaches, etc. Désormais, il n'est plus question de ça, mais ça se reporte, cette question d'une forme de violence se reporte sur la question maintenant des violences sexistes et le pire sur ce qui pourrait advenir en termes de viol. Donc là, on a une évolution. En même temps que cette évolution se fait sentir, on a aussi une évolution de l'organisation des fêtes. Ça a été évoqué d'ailleurs par Laurent et puis par le maire de Tyros. C'est une fête qui, dans les années 70-80, commençait à 9h du soir, en fait, pour l'essentiel. Désormais, c'est une fête qui commence à 10h du matin. Et une grande partie de la fête se déroule de jour avec les familles. Et donc là, on a quand même quelque chose qui fait que en journée, là, l'enquête que j'ai faite cette année sur le ressenti justement vis-à-vis de la sécurité, la réponse est massive. en journée, la sécurité est très bonne, les gens se sentent sécures, ils peuvent profiter de la fête sans problème. Je voudrais rajouter aussi une chose par rapport aux interventions qui ont été faites sur justement ce problème de sentiment de sécurité. Je voudrais bien insister sur le fait que les enquêtes que j'ai menées aussi bien en 2018 que cette année en 2025 sur les fêtes de Bayonne montrent que les gens ne vont pas aux fêtes seuls. On va aux fêtes en groupe.
Avec des amis, avec de la famille.
Voilà, soit c'est avec la famille, avec des amis ou des collègues de travail, etc. Parfois même des groupes basés sur le genre, donc des groupes de femmes, des groupes d'hommes, etc. Et que le groupe, d'une certaine façon, que l'on forme avec ses amis au moment de se rendre aux fêtes, c'est le premier cercle protecteur. Si on a un peu trop bu ou on ne se sent pas bien, le groupe va vous amener au poste de secours ou va vous guider effectivement vers un endroit où on peut appeler Angela, parce que c'est un dispositif très très bien, je crois, qui est en train de se diffuser. C'est aussi le groupe qui va empêcher que l'un de ses membres qui s'échauffe avec un autre, qui commence à échanger des claques, on va le prendre par le col, il dit arrête, il ne faut pas faire ça, etc. Et donc je pense qu'il y a une forme d'auto-organisation à l'intérieur de la foule, qui protège quand même, et qui peut diminuer ce sentiment de stress. Seuls 2% des gens qui ont répondu au questionnaire en 2018 ou en 2025 déclarent aller aux fêtes seuls.
Sur combien de personnes interrogées dans votre questionnaire ?
Plus de 4000 dans les deux cas.
Allez, nous sommes en ligne avec Eric. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Moi, de mon côté, je voulais partager sur l'aspect financier des Serias. En fait, ce que je me rends compte, et c'est partagé par beaucoup de monde, c'est que ça devient de plus en plus cher de participer aux fêtes. Notamment, si on prend le cas de Bayonne, c'est la mise en place des bracelets qui ont démarré à 8 euros, maintenant qui sont à 15 euros. Donc, il y a une sacrée inflation de ce côté-là. Donc, je comprends le besoin de sécurité. De mon avis, peut-être que l'argent a pu être trouvé d'une autre façon, notamment sur quand on voit les prix qui sont pratiqués au niveau des boissons ou au niveau des repas avec des tarifs qui sont assez exorbitants par rapport à la qualité qui est mise à côté de ça. Donc, rapidement, quand on va se déplacer aux fêtes en famille, si vous avez deux ados, par exemple, s'ils ont plus de 16 ans, vous allez payer pour 4 personnes 60 euros rien que pour se déplacer dans vos fêtes. Une consommation, ça va vite chiffrer à une vingtaine d'euros. Puis vous rajoutez les repas si vous aviez prévu, etc. Donc, ça devient un budget qui est vraiment très, très conséquent. Et j'ai déjà entendu certains discours des personnes qui n'iront plus parce que justement, à cause de...
Parce que ça coûte trop cher.
Part financière qui est trop importante. Oui.
Philippe Stenner, pourquoi Bayonne est devenue payante ?
Alors, Bayonne est payante pour les non-bayonnais seulement, et uniquement à partir du vendredi, c'est-à-dire du troisième jour. La réponse que le maire donne à ce genre de questions, c'est un changement du modèle économique de la fête, c'est que la fête coûtait trop cher, ça coûtait à peu près 1,5 million d'euros depuis 2016, en raison de la hausse de demande en termes de sécurité. Et bon, ça pèse quand même très lourdement sur les fêtes locales. À Dax, après Bayonne, on a organisé un espèce d'autofinancement de la fête. Alors, à Bayonne, par le biais d'un bracelet qui a beaucoup augmenté. Effectivement, il a quasiment doublé en l'espace de 7 ans, entre 2018 et 2025. Et puis, à Dax, c'est donc par le biais d'une espèce de taxe sur les gobelets que la fête est financée, qui fait que, bon an, mal an, à Bayonne comme à Dax, ça coûte à peu près entre 200 et 300 000 euros d'organiser un jour de fête, ce qui n'est pas fondamentalement très, très important. Alors, cette question, effectivement, du coût d'entrée de la fête. Alors, j'entends bien la remarque qui vient d'être faite. Évidemment, quand on y va un petit collectif, une famille avec deux ados, ça finit par
ça
coûter.
Vite, ouais.
Voilà. Maintenant, je crois que ce qui est important derrière ce coût ressenti individuellement, qu'on peut plus ou moins diminuer, après tout, on n'est pas obligé d'aller au resto tous les jours, etc., etc., c'est le fait que ces villes, Dax, Tyros, Bayonne et d'autres, sans doute à Mauléon ou à sont capables jusqu'à présent d'auto-organiser et d'auto-financer la fête. Et je pense que c'est un point très important, parce qu'à partir du moment où on se mettrait à céder les fêtes à des groupes internationaux qui organisent ça avec des charters, des bus, du all-inclusive, etc., les fêtes deviendraient complètement différentes. Si on fait financer les fêtes par des grands alcooliers, comme ça se fait par exemple au Brésil, la fête prend une autre tournure. Et je pense qu'il y a un travail à faire pour que, justement, vis-à-vis des prix, mais ça c'est difficile d'intervenir, c'est le marché. Et vis-à-vis de l'organisation qui, grâce aux mairies, arrive à combiner le fonctionnement marchand des bars et des restaurants, le fonctionnement des associations qui sont indispensables pour les fêtes telles qu'elles se déroulent dans les fêtes de rue dans le Sud-Ouest, et un financement par l'impôt, en gros, grâce à la mairie, cette structuration avec des variantes est un élément, je crois, très important, à la fois pour leur perpétuation, mais aussi, je crois, pour maintenir une dimension de tradition culturelle, avec toutes ces évolutions, mais de tradition ouverte. Il ne s'agit pas de se refermer, comme certains milliardaires français ont essayé de le faire par un label, la plus belle fête de France. Il s'agit au contraire de rester une tradition ouverte, évolutive, et que ça se fait grâce justement au fait que l'on maîtrise les coûts avec les arrangements que j'ai rapidement évoqués et qui ont d'ailleurs été évoqués aussi par Laurent ou par le maire.
Régis, je laisse, c'est une bonne question quand même, le financement. C'est compliqué de maintenir un financement indépendant.
Alors pour le moment, on y arrive encore à Saint-Tyrosse. On n'est pas sur les mêmes jauges que Dax ou Bayonne, mais bon, Tyrosse, c'est 9000 habitants. On est... Le soir, on monte à jusqu'à 15 000 festaires. Donc, les coûts sont environ de 150 000 euros, comprenant les animations et la sécurité. Donc, c'est quand même relativement important pour la commune. Mais, c'est un cofinancement qui existe avec les cafetiers pour l'occupation du domaine public, les associations qui participent également à une partie du financement de la sécurité, et donc l'impôt des tirossés. Moi, je suis très attaché à la gratuité de la fête, pour que ça reste une fête populaire, même si je comprends les contraintes financières des communes qui ont franchi le pas. Et là où je rejoins encore plus Philippe Stenner, c'est qu'il faut qu'on fasse attention, que l'on reste en capacité d'organiser nos fêtes, pour que ça reste vraiment... Qu'on ne rentre pas dans la marchandisation comme ça a pu se faire pour des festivals historiques qui ont été rachetés par des fonds de pension, notamment.
Et qu'elles ne soient pas récupérées, j'imagine. On a Julien avec nous ce soir. Bonsoir, Julien.
Bonsoir. Moi, je voulais parler en fait de la récupération des fêtes de village par l'extrême droite et la droite, justement par rapport au label Les plus belles fêtes de France, là, dont Stérin gère le projet. Donc, je voulais savoir si tradition et extrême droite, c'était le même combat, quoi.
Voilà. Alors. Merci Julien. Donc vous parlez donc de ce label Les plus belles fêtes de France, créé par une association. On a découvert, c'est l'Humanité hein, qui l'a révélé début juillet, que Pierre-Édouard Stérin, donc milliardaire proche de l'extrême droite, était actionnaire. Il y a plusieurs fêtes du Sud-Ouest hein, qui se sont d'ailleurs retirées de ce label. Philippe Stenner, une réaction à ce que dit Julien?
Je pense qu'on peut effectivement complètement dissocier le combat de ce milliardaire d'extrême droite et la question des traditions. Comme je le disais tout à l'heure, la tradition, c'est quelque chose qui est inventé, hein, elle naît, elle évolue, et notamment dans ces fêtes à base culturelle, locale, parce qu'il y a une culture vraiment vive et importante, elles ont les moyens d'exister, elles peuvent justement, parce qu'elles sont fortes, elles peuvent s'ouvrir, elles sont pas là pour se recroqueviller, se refermer, pour servir des intérêts politiques nationaux qui seraient en gros le rassemblement des différentes droites pour asseoir un pouvoir plus à droite en France. Et donc du coup, je pense que le maintien d'une tradition qui est affichée comme un souhait, un souci par le fondateur des fêtes de Bayonne, Benjamin Gomez, un juif parfaitement intégré d'ailleurs. C'est quelque chose qui est, je crois, quelque chose de tout à fait possible, une fois qu'on maîtrise le financement et que l'on a une force culturelle à base traditionnelle très forte, mais évolutive, ouverte, on peut vraiment se débarrasser de ce genre de choses, normalement sans problème.
Régis Gelaise, je repars sur le témoignage d'Alice qui habite à Tyros. Elle disait aussi qu'elle n'était pas très à l'aise avec la corrida. La corrida, ça fait partie intégrante de vos fêtes. Vous, à Tyros, vous avez des arènes. Est-ce qu'il faut réinterroger parfois les traditions, notamment quand elles concernent la corrida, ou au contraire, il ne faut pas et tant pis, ça ne plaît pas à tout le monde?
Alors moi, j'aurais des propos nuancés. Je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie, mais aussi de compréhension. Moi, je comprends que certains puissent être offusqués, choqués par la corrida. Mais elles font partie intégrante des fêtes. Sans taureaux, il n'y a pas de fête. Les fêtes se sont construites, notamment à Saint-Tyros, autour des arènes, autour de la tauromachie. Nous sommes une ville taurine bientôt centenaire. Ça m'interroge, ce refus, ce combat contre la corrida, c'est vraiment une question sociétale et sur le rapport que l'on a à la mort. Il me semble qu'aujourd'hui, on voudrait cacher la souffrance, cacher la violence du monde. Des animaux élevés en batterie sont tués dans des abattoirs loin des villes. Ça soulage la conscience de consommateurs qui ouvrent des barquettes en plastique pour manger du jambon. Dans une arène, c'est un peu une métaphore de la vie et des souffrances du monde. On peut éprouver de la joie, de la peur dans une arène, de la douleur. Et moi, je préfère regarder le monde tel qu'il est. Vous savez, l'été dernier, durant nos fêtes et sur la côte, on a accueilli pas mal de SDF qui ont été chassés de Paris pour justement qu'ils ne soient pas à la vue de touristes, enfin de consommateurs et spectateurs des Jeux Olympiques. Moi, je trouve ça beaucoup plus violent.
Voilà. Philippe Stenner, c'est vrai que la tradition, on parlait c'est la fête, elles ont été construites aussi autour du taureau, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui évoluent. Par exemple, je pense à la tradition du taureau des Fuego. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est à l'origine des taureaux qu'on lançait dans la rue avec des boules de feu autour des cornes. Aujourd'hui, c'est aboli, je pense. Alors en France, c'est sûr, en Espagne, quasiment partout. Il y a des évolutions quand même.
Oui, il y a des évolutions, bien sûr, puisque comme on l'a dit à propos de la sécurité, il y a des ressentis qui deviennent différents, il y a des sensibilités qui évoluent maintenant, comme ça c'est le cas depuis le début de l'humanité, d'une certaine manière. Alors, effectivement, il y a des villes qui sont organisées autour de la tauromachie. Le maire de Tyros vient de le rappeler, à Dax, c'est très, très, très net, il y a une novillade et une corrida tous les jours. Et les arènes sont dans le périmètre des fêtes. À Bayonne, ça se pose complètement différemment, puisque les arènes sont loin du périmètre des fêtes. Il y a effectivement des corridas, ce qui n'a pas toujours été le cas. Elles se passent loin, et un grand, grand, grand nombre de festaires ne mettent jamais les pieds aux corridas pendant les fêtes de Bayonne. D'autres, au contraire, aiment bien la faire. Peut-être que la séparation fait qu'à Bayonne, ça pose un peu moins de problèmes que ça peut être le cas à Dax ou à Tyros. Effectivement, l'argument qui est évoqué par le maire de Tyros, il faut affronter la réalité du monde, mais est-ce qu'on a vraiment envie de le voir à ce moment-là des fêtes? Bon, le débat est sans fin. Mais il faut reconnaître aussi, pour voir l'affaire un petit peu au-delà, il y a une vaste nappe, à la fois dans le sud de l'Europe, ça peut toucher aussi la Grèce, ça va toucher l'Espagne, le Portugal, mais on retrouve ça évidemment au Brésil, hein, le Bumba Meu Boi de San Luis de Maranhão est une fête très importante, à base taurine aussi, à part que on va symboliser la mort, hein. Bumba Meu Boi, c'est la mort du bœuf, on va symboliser la mort plutôt que l'infliger pratiquement. Donc voilà, on peut peut-être trouver un moyen de symboliser cette dureté, ce caractère que les philosophes, je pense à Nietzsche en l'occurrence, appelaient le tragique du monde. On vit effectivement, mais il y a une fin. Cette fin, en général, est assez douloureuse, elle peut arriver assez tôt. Là, on est obligé de tuer des animaux, enfin une grande partie populations tuent des animaux pour se nourrir. Voilà. Mmh. Ce tragique-là, la fête ne l'interrompt pas. La manière de le montrer, c'est un autre problème.
Régis Jelès, peut-être juste sur les retombées économiques quand même d'une fête comme vous la vivez à Tyros, c'est un booster pour le territoire ?
Oui, alors il y a des retombées économiques bien sûr pour les acteurs professionnels, mais et ça a été souligné par les différents auditeurs aussi pour les associations qui sont vraiment un vecteur d'intégration, un vecteur de lien social. À Saint-Cyros, il y a à peu près 600 bénévoles qui œuvrent durant les fêtes dans 30 à 40 associations. Ça leur permet de boucler leur budget aussi et pour derrière animer la ville toute l'année. On a aussi bien des associations sportives que culturelles ou même à objet social.
Ouais. Et important
et
donc
c'est, même pour les oui pour et même le... pour les néo-tyrosais, oui. Pour les néo-habitants, ouais. Qui par ces associations s'intègrent dans la vie locale.
Important pour tout le territoire. Merci beaucoup donc à nos invités Philippe Stenner, sociologue de la fête, Régis Jelès, maire de Saint-Vincent de Tyros. Merci aussi à Marine Baraguet de l'association Balépate.